Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord. Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bonjour Marine.
Bonjour, bonjour à tous.
Et tu seras la seule aujourd'hui dans les studios. Nous sommes deux. Il y aura Manu qui sera bien présent, qui a déjà enregistré sa petite chronique sur Sin City, qu'on a vu tous les trois. Mais sinon, de quoi sera fait ton sommaire ?
Alors moi, je vais vous parler de Trois Cœurs, le nouveau film de Benoît Jacquot. Et on va également parler de Elle l'adore avec une interview de Laurent Lafitte qui sort aujourd'hui.
Et c'est une interview exclusive, on le rappelle, parce que tu étais toute seule avec lui.
Tout à fait.
Ouais. Et puis on aura une autre interview, c'est celle de Jean-Charles Hue. Jean-Charles Hue qui a commis un film qui fait beaucoup parler, Mange tes morts. Alors malheureusement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de spectateurs dans les salles. Donc ce sera l'occasion d'écouter ce qu'il a à dire sur le western notamment. Et puis je vous parlerai d'un homme très recherché, le dernier film d'Anton Corbijn, c'est Cinérama.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Après les adieux à la reine, Benoît Jacquot continue avec Trois Cœurs son exploration des triangles amoureux anthropophages. À Valence, Marc, interprété par Benoît Poulvorde, rate son train retour pour Paris et croise Sylvie, que joue Charlotte Gainsbourg, avec laquelle il passe la nuit à déambuler dans la ville. Au petit matin, il se quitte avec la promesse de se revoir à la capitale quelques jours plus tard. Romantisme oblige, ils ne s'échangent pas leur numéro d'iPhone 6 et lorsque Marc, au moment de se rendre au rendez-vous, est victime d'un malaise cardiaque, il ne peut pas la prévenir, tuant ainsi dans l'œuf la relation qui allait peut-être éclore entre eux. Quelque temps plus tard, il tombe amoureux d'une autre femme au cours d'un de ses déplacements professionnels, mais découvre au moment de l'épouser qu'elle n'est autre que la sœur de Sylvie.
Excusez-moi, vous savez pas que je peux trouver un hôtel ?
J'ai raté mon train.
Je rate souvent mes trains. J'ai besoin de prendre un peu l'air encore. Vous marchez avec moi ?
Oui.
On se revoit au jardin des Tuileries, vendredi prochain, 18h. On va se donner nos numéros, c'est plus sûr.
J'y serai.
Faut que j'y aille.
Monsieur, vous m'entendez ? Vous avez eu un malaise ?
Vous vous appelez comment ?
Sophie.
Je suis tombée amoureuse.
C'est vrai ?
Je suis très heureuse pour toi.
Bon, il est où l'homme invisible ?
Vous connaissez Sylvie ?
Non.
Bah dites-vous bonjour.
Le nouveau film de Benoît Jacquot s'annonce comme un mélodrame mais s'affiche comme un thriller amoureux. Selon le réalisateur, il n'y a, je cite, « rien de mieux que de filmer des histoires d'amour comme des histoires de crime et inversement ». C'est pourquoi il fait ici confier les scènes les plus anodines dans le suspense le plus latent. Alors ça sème, ça fume des clopes, ça mélancolise, mais toujours dans le luxe. Hein. Elle est antiquaire, il est contrôleur des impôts. Et la matriarche, jouée par Catherine Deneuve, vit seule dans une somptueuse demeure où elle prépare des charlottes aux fraises en talons aiguilles. Alors il est vrai que cette fâcheuse tendance toute française à faire évoluer les drames amoureux au cœur de la bourgeoisie donne parfois à critiquer, puisque les histoires d'amour dites prolétaires sont tout aussi, voire plus intéressantes, je pense par exemple à Grande Centrale, mais quand même nettement moins répandues. Néanmoins, l'intérêt du film est qu'ici, les problèmes de cœur au sens figuré sont envenimés par des problèmes de cœur au sens propre. Comme dans un autre triangle amoureux bobo parisien, Les histoires d'amour de Christophe Honoré, l'infarctus s'ajoute à la débâcle des sentiments, compliquant l'intrigue. Poulvorde livre d'ailleurs une de ses meilleures interprétations, tout en fébrilité contagieuse, et trouve parfaitement sa place au milieu d'un trio féminin brillamment dans la réserve. Les rapports entre cette famille bourgeoise, ses secrets et le personnage secondaire du maire évoquent d'ailleurs Chabrol, à la différence que Chabrol ne savait pas aussi bien filmer les combats intérieurs. En revanche, si l'on peut reprocher quelque chose à Trois Cœurs, c'est bien son aspect volontairement téléfilm qui semble en utiliser volontairement les codes les plus grossiers et peut catégoriquement en repousser certains. La musique dramatique est très lourde et son omniprésence, y compris dans les scènes les plus légères, laisse présager d'un dénouement tragique, de même que la caméra, souvent subjective, semble être un personnage témoin à part entière, ainsi que la voix off anonyme qui apparaît sans réelle raison. Tout cela composant autant d'effets intéressants, mais un peu bancal et parfois un peu gênant. Voilà, donc c'est un film qui est loin d'être parfait, qui peut déplaire, mais que je recommande quand même, car il est extrêmement bien joué. Et c'est ça qui fait vraiment sa force.
Les acteurs ont été bien choisis, et c'est ce qu'on verra d'ailleurs dans à peu près tous les films que l'on va chroniquer aujourd'hui dans ce cinérama, avant de retrouver Sin City, une interview de Jean-Charles Hue.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Alors, Marine, si je te dis Shtar, Pral et Tchour, tu me dis quoi?
Alors, je crois qu'il y a un des mots qui veut dire frère.
C'est Pral, oui.
Tchour, c'est volé.
Oui.
D'après ce que j'ai compris. Après, ce qui est quand même assez étonnant, en fait, dans le film, c'est que tous les dialogues sont sous-titrés, mais en revanche, les mots ne sont pas traduits. Alors, il faut se débrouiller un petit peu avec ce qu'on arrive à comprendre.
Alors, il est question, on parle de Mange tes morts, le dernier film de Jean-Charles Hue. Alors, avec la BM du Seigneur en 2010, Jean-Charles Hue avait filmé la communauté Yéniche, gitan blondinet vivant dans le nord de la France, et avait injecté quelques doses de fiction. Dans Mange tes morts, le réalisateur reprend la majorité des acteurs et nous convie à un western teinté de film noir. Alors, ses références, ce sont John Ford et La prisonnière du désert ou La horde sauvage de Sam Peckinpah. Alors le pitch, il est simple. Jason, 18 ans, appartient à la communauté donc des gens du voyage. Il s'apprête à célébrer son baptême chrétien, parce que la religion est omniprésente, alors que son demi-frère Fred, lui, revient après plusieurs années de prison. Ensemble, accompagnés de leur dernier frère Michael, un garçon impulsif et violent, et de son cousin déjà baptisé marié à 20 ans, les quatre partent en virée dans le monde des gadjots à la recherche d'une cargaison de cuivre, on sera à peine étonné. Road movie gitan qui questionne la liberté et l'ancien temps contre le nouveau mode de vie des gitans et la religion, Mange tes morts met en scène une virée qui va à 180 à l'heure. Marine, toi t'es restée un peu sur le bord de la route.
Hein ? Oui, c'est ça.
moi j'ai plutôt apprécié parce que c'est un film très impulsif. Le son, alors effectivement, les dialogues sont dans le langage des gens du voyage, de ces yéniches, effectivement, et c'est sous-titré. Alors après, c'est pas tout le temps évident parce qu'on est partagé entre l'idée de lire les sous-titres et puis l'idée de se laisser bercer par la musicalité de cette langue. Et puis sinon, c'est un film quand même avec beaucoup, beaucoup d'action. En tout cas, dans cette nuit. On écoute Jean-Charles Hue, qui était présent à Montpellier.
Je m'appelle Jean-Charles Hue, cinéaste.
Il est l'artiste.
On pourrait regarder l'affiche, parce que là, il y a une image qui, me semble-t-il, n'est pas dans le film. Hein. C'est, là, on voit une voiture qui brûle, c'est celle de Fred, qu'on voit aussi de dos, cet homme massif, une grosse voiture qui brûle. Et puis, il y a ce titre, Mange tes morts.
Mange tes morts est une phrase, malheureusement, qu'on ne peut pas dire. Et si tu la prononces, ça peut y avoir de graves conséquences, parce que c'est une affaire d'honneur. C'est lorsqu'il y a un conflit entre gitans, on va dire, entre voyageurs, et que, on va dire, tu n'arrives plus à régler ce problème, d'une manière ou d'une autre. C'est comme une espèce de sentence qui... tu provoques l'adversaire à avoir une réaction de vrai voyageur, de vrai gitan. Voilà. Tu insultes ses ancêtres. En gros, tu lui dis, tu n'es pas digne de tes ancêtres si tu ne réagis pas à ce que je viens de te dire. C'est une provocation, quelque part. Ça touche à la croyance de tout un peuple, donc on n'est plus dans l'insulte seulement, toi. Non, ouais. Et pour le monde gitan, comme pour tous les mondes, Gadjo, c'est difficile d'insulter les ancêtres, mais ça l'est plus difficilement peut-être dans le monde gitan parce que on a moins de traces des ancêtres. Hein. Donc tout est un peu dans la tête, quelque part.
Je vous propose quelque chose, si vous voulez, les gars. Petit tour dans un bar que je connaissais à Creil.
Creil, c'est aussi quelqu'un de cuivre, ça.
Ouais. Un petit bar, chez Colette. Comment aller trois le soir. Et qu'on prenait une chasse. On se retrouvait tous chez Colette d'abord. Il y avait toujours un petit bout de pain à manger. Chez Colette. Mais ce que je préférais là-bas, c'était son assiette de frites sur le bar.
Et donc quand j'ai vécu cette vraie nuit-là en compagnie de Fred et de la bande, et que j'ai vu ce Pierrot qui était en guerre contre le monde gadjo, et qui en gros il disait, bon voilà, moi de toute façon, le monde gadjo, enfin une partie du monde gadjo, principalement les Schmitt, la justice et tout ça, m'a toujours empêché. Bon, bien sûr c'était aussi ses parents qui l'empêchaient de vivre, mais m'ont toujours empêché de soit de bouffer, soit de garder ma liberté, soit de, etc. Donc c'est un mec qui était un desperado en guerre contre le monde gadjo. Et la phrase qui correspondait le mieux, c'était « Mange tes morts ». Qui s'adresse évidemment pas à des voyageurs en l'occurrence, mais à tous ceux qui vont empêcher le monde voyageur de garder l'essentiel de leur culture. Alors que parfois les gadjous le font pas de manière méchante, c'est-à-dire ils vont dire ça serait bien si tu allais plus à l'école, ça serait bien si tu te sédentarisais, ça serait bien si voilà. Mais résultat peut-être le même, c'est-à-dire qu'à la fin tu grignotes une culture qui passe, comme on le disait tout à l'heure, par l'idée de liberté. Et une liberté qu'ils payent, parce que la liberté n'existe pas, ni chez nous, ni chez eux. Donc moi, quand j'ai vu ce Pierrot-là, qui se défendait dans sa bagnole contre ce monde, à sa façon, naïvement, violemment, etc., c'est cette phrase-là qu'il faut pour cette histoire, pour le film. Et après, c'est Gilles qui m'a appelé, le pasteur, mon ami, il m'a dit, écoute, Charlie, bon, heureusement, on t'aime bien, toi. Mais bon, une fois de plus, tu nous fais un truc bizarre, quoi, toi, dans le titre. Mais ça va pas plaire à la communauté.
On est parti pour aller au camion de cuivre, et tu veux encore aller au bas. Et puis toi, comme tu bois, tu sais faire que du dégât.
Mais t'inquiète
tu
pas,
sais plus qu'est-ce que tu fais.
Un petit verre, comme ça.
Non, moi ça m'intéresse pas, moi. D'un alcoolique,
mais il y a 15 ans que j'ai pas bu, moi, mon frère.
Et moi, je suis pas là, malgré ce que pourraient peut-être croire certains, pour casser du sucre sur la communauté. Je suis plutôt pour là pour essayer de jeter des ponts et pas prendre les gens pour des imbéciles. Ni un camp, ni l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de faire un film gnangnan qui va une fois de plus parler du côté guitare et compagnie, même si c'est très beau, j'adore, je suis un grand fan de flamenco, tout ça, c'est pas la question. Mais ça m'intéresse pas de faire ça au 21e siècle. Toi. Donc aujourd'hui, maintenant, il faut que tout le monde ait, comme disent les gitans, une parole de vérité un peu, quoi. Hein, qui parle vrai, quoi. Alors, il y a des voleurs chez eux comme il y a des voleurs chez les gadjos. Parlons-en, c'est tout. Arrêtons de cacher, de se cacher derrière le petit doigt, quoi.
Comme t'entends qu'il t'a dit tout à l'heure, là maintenant, il y a des gens, c'est des chrétiens, et ici, c'est des gens
quoi,
honnêtes.
C'est quoi, les chrétiens? Bah, retourne-y, bah, tes chrétiens, ma couille.
Allez, viens, on s'en va, allez, viens.
C'est
des gens honnêtes, des travailleurs. Allez, on s'en va.
Vas-y, jette-moi son.
Dans la vraie vie, il n'y avait pas cette histoire de baptême, si ce n'est que c'est moi qui tenais la place un peu de Jason, c'est-à-dire la place du novice. Donc, j'aime bien cette idée qu'on trouve dans les westerns comme ailleurs, mais dans Un prisonnier du désert, où on a un novice qui est d'ailleurs en plus métis, hein, à moitié indien, Jason, lui, la moitié gadjo, et puis on a un mec, un vieux de la vieille, quoi. Et, dans le cas de la prisonnier du désert, c'est John Wayne, Ethan, et puis là, c'est Fred, quoi. C'est un parcours initiatique, voilà. Et puis à un moment, bah, faut bien... chevaucher quelque chose pour prendre la route. Alors ça peut être un bateau comme Ulysse, ça peut être autre chose, mais après, faut aller affronter quelque chose. C'est la grande question de la mythologie, de toute façon, on n'a rien inventé là-dessus. Donc voilà, pour moi, c'est ils prennent leur bateau ou leur cheval et puis ils partent dans une forme d'aventure qui va comporter forcément des risques. Et pour Jason, c'est le baptême du feu, c'est le baptême qui va anticiper sur le baptême de l'eau. Et voilà, ça c'est les grandes questions toujours, hein, bien, mal, jusqu'où on peut aller dans sa propre liberté, jusqu'où on peut aller. Ça, c'est des grandes questions du western, ça, quand même.
Salut les schmitts ! Vas-y, mon bras, pas quitte les quatre pieds, mon bras !
L'ombre de Fred qui arrive dans le dos de Jason, c'est fort de. Prisonnière du désert à mort, ça c'est. Dans tous les Ford, lorsque l'ombre arrive, c'est toujours annonciateur de quelque chose, quoi. D'un bouleversement, un changement, c'est toujours un peu. Voilà, c'est.
Tu sais, mon frère, dans la vie, il faut payer sa dîme. Toujours à l'heure, tôt ou tard, il paye sa dîme. Et moi, ma croyance, c'est ça.
Mange tes morts, film traversé par le western, comme on vient de l'entendre de la bouche de son réalisateur Jean-Charles Hu. Nous passons maintenant au gros blockbuster de la semaine, présenté par Manu.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Sin City, c'est la ville où on entre les yeux grands ouverts. Sinon, on n'en ressort jamais.
Bienvenue dans Sin City 2. Le souvenir ému d'un premier opus particulièrement réussi tant d'un point de vue visuel que narratif fonctionne à merveille dès les premières images de ce nouveau Sin City. J'ai tué pour elle réactive à merveille toute l'excitation suscitée par la première adaptation par Robert Rodriguez et Frank Miller, ce dernier étant bien sûr l'auteur de la BD originale, nommée roman graphique par les plus pointilleux. Alors noir et blanc charbonneux et sensuel, dynamité par des explosions de couleurs éparses, rouge évidemment, mais aussi bleu, vert et rose, et une 3D séduisante impressionne à nouveau et nous immerge dans une expérience toujours fascinante à défaut d'être inédite. Alors le respect du matériau d'origine n'est évidemment pas une surprise lorsqu'on a Frank Miller comme co-réalisateur. La transposition, par instant éclatante de beauté, est respectueuse à la lettre. Jeux d'ombre outré, vertige graphique de la composition des plans, ralenti impressionnant suggérant le mouvement esthétique d'une planche de BD, érotisation des silhouettes évoluant dans un décor urbain cauchemardesque, brusque accélération d'une caméra virtuose comme dans un dessin animé de Tex Avery. Le plaisir est intact pendant quelques minutes et l'on se dit que l'on tient là le divertissement le plus fun, excessif et osé de l'année. Mais comme les plus grands plaisirs ne durent pas, que tout a une fin, plus le récit progresse, plus un grain de sable enraye la machine. Quelque chose cloche. Au départ, on ne sait pas ce qui coince. Le premier signe de faiblesse évident est le manque d'articulation entre les séquences, via un montage déficient, posant un problème de rythme évident et une alternance un peu mécanique de séquences ultra nerveuses et sophistiquées et des instants plus contemplatifs. Alors les morceaux de bravoure vous explosent à la tronche comme autant de signes évidents du talent intact des auteurs. Eva Green en femme fatale, tout droit sortie d'un roman de Chandler, plongeant nue dans sa piscine, l'attaque de Marv et de Nancy dans la villa de Powerboost, ou encore l'ouverture en fanfare avec un Marv survolté s'en prenant au jeune friqué du quartier. Les qualités évidentes de ces motifs visuels ne sont pas pensées comme un tout. La virtuosité éparse, éclatée, manque de cohérence. Et la grande déception de Sin City 2 se trouve du côté d'un récit lâche et très mal pensé.
Comment j'ai pu en arriver là ? Qu'est-ce que j'ai fait ?
Alors autant le premier parvenait à enchevêtrer plusieurs récits en un à la manière d'un film de Tarantino, et donner chair à des personnages qui parvenaient à être émouvants grâce aussi à la combinaison de voix off mélancolique faisant ressurgir les fantômes du film noir des années 40. Alors en 2014, Rodriguez et Miller, fatigués, ne cherchent plus à construire un récit cohérent. Ils adaptent à la lettre la BD « J'ai tué pour elle » et collent bout à bout deux autres mini-récits indigents sans se préoccuper de cohérence narrative. Et le cœur du récit, soit le portrait d'une garce machiavélique, d'une véritable sorcière manipulant de pauvres types, paraît bien pauvre, sorte de pastiche grossier du meilleur du film noir, d'Assurance sur la mort jusqu'à La fièvre au corps en passant par Laura. Alors reste le plaisir évident de se plonger dans une forme toujours aussi attractive et d'apprécier la présence de comédiens trop rares, à l'instar de Powerboat, Stacy Keach, qui fait une très brève apparition, et évidemment Mickey Rourke, entouré d'une pléthore de filles plus sexy les unes que les autres, Jessica Alba et Juno Temple en tête. Alors voilà, donc un bon divertissement, hélas un petit peu entaché par un scénario un peu faiblard. Donc le film passe un peu partout, difficile de le rater.
Ne jamais perdre le contrôle. Ne jamais laisser ressurgir la bête.
Alors on aurait pu sous-titrer ce Sin City 2, Eva Green nue. Hein,
c'est oui.
Il y a quand même une omniprésence, je trouve, de
ses seins.
Voilà, tout à fait. Donc, nous passons maintenant à un homme très recherché, sorti aussi la semaine dernière.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Si l'on accepte Sin City, qu'on mettra donc hors concours, il s'agit du casting le plus intéressant et fourni des sorties de la semaine passée. Alors tout d'abord, il s'agit d'un film posthume de Philip Seymour Hoffman, ce qui n'est pas rien. Dans l'acteur, c'est incarner les personnages qu'on lui confie. Et puis pour l'accompagner, eh bien, on retrouve Rachel McAdams et William Dafoe pour les acteurs du continent américain. Mais on retrouve aussi pour l'Allemagne, où le film est tourné, Daniel Brühl, hein, qu'on a vu dans Goodbye Lenin, qui a été révélé par ce film, ou dans Rush. Et puis Nina Hoss, hein, du très bon Barbara, qui était la vie de cette fille jeune femme est-allemande. Le réalisateur, c'est Anton Corbijn, à qui l'on doit Control, très remarqué sur le leader de Joy Division et de American, film de tueur à gages avec George Clooney, planqué en Italie. Avec un homme très recherché, Corbijn se lance dans le film d'espionnage, et pas n'importe lequel, celui estampillé John le Carré, l'auteur de la nouvelle, dont découle le scénario assez limpide de cette fiction, se déroulant à Hambourg. C'est de cette ville que sont partis certains terroristes responsables des attentats du 11 septembre. Et 10 ans après, eh bien, nous voyons à l'œuvre le contre-espionnage allemand qui aimerait démasquer un faux philanthrope musulman et qui est témoin de l'arrivée sur son territoire d'un ressortissant tchétchène venu chercher la fortune mal acquise de son père. Alors l'attrait du film, qui déroule une intrigue très classique, c'est d'entrevoir les différentes stratégies à l'œuvre parmi les différents services secrets, entre ceux qui veulent agir tout de suite et ceux qui préfèrent rester les maîtres du jeu, contrôler pour mieux régner, ou comme le dit Günther Bachmann, chef du contre-espionnage allemand, interprété par Seymour Hoffman, pour rendre le monde plus sûr. Une phrase qui fait évidemment plaisir aux Américains, qui, on le sait, ont des yeux et des oreilles partout.
Le renseignement allemand nous demande de faire un boulot que les lois allemandes interdisent. Notre unité a été mise en place pour collecter des renseignements.
On n'est pas policiers.
On est espions. Nos sources ne viennent pas à nous.
Oh, Annabelle ! Ça faisait longtemps ?
On va les trouver. Quand on les contrôle, on les redirige vers de plus grosses cibles. Une sardine pour ferrer un barracuda. Un barracuda pour ferrer un requin.
Ça bouge.
Vous n'avez pas le droit. Je suis avocate.
Avocate ? C'est assistante sociale pour terroristes que vous êtes. Vous avez franchi les limites. Vous êtes dans leur camp maintenant.
J'ai peur. Je peux plus faire ça, désolé. Je suis pas votre espion.
Tu es mes yeux, mes oreilles. J'ai besoin de toi. J'ai un boulot à faire et vous allez m'aider.
Martha Sullivan, de l'ambassade des États-Unis. Nous savons qu'il envoie des fonds pour des œuvres de charité musulmanes et qu'à chaque fois, une partie disparaît.
Je crois qu'il détourne l'argent via une compagnie maritime.
Il a un tas d'amis ici à Berlin.
Surveillez vos arrières.
Il est tolérant, grand ami de l'Occident. Mais dans tout homme bien, il y a une infime part de mal, non ? Et chez Abdullah, cette part infime peut être mortelle.
Nous avons 3 heures pour appréhender Abdullah et le retourner.
Qui c'est ?
Police ! Personne ne bouge !
Je vous ai donné Issa. Issa vous donne Abdullah. Et ensuite ? Pourriez-vous nous préciser vos intentions à long terme ?
Faire de ce monde un endroit plus sûr. N'est-ce pas suffisant ?
Voilà, il a dit la phrase hein, qui fait plaisir aux Américains. La Taupe, autre film d'espionnage adapté de John le Carré également, avançait délicatement en nous plongeant dans les années 70 d'une guerre encore froide entre services. Alors, quoique tourné au début de l'automne, ici l'atmosphère est plus chaude et il apparaît que les personnages sont moins austères. Alors, on a la cellule de contre-espionnage qui fait fi des 35 heures hein, sur le pont de jour comme de nuit, avec à sa tête un excellent Seymour Hoffman qui clope à tout va. On a un banquier qui va remettre une grosse somme d'argent, un Tchétchène qui aimerait quitter son enfer, une avocate pleine de ressources qui on propose un marché, on a une proie et les maîtres de l'échiquier politique, les Américains. Alors autant d'ingrédients qui mis ensemble font assurément une histoire, alors là où dans d'autres films on verrait une bonne course-poursuite, une mort tragique ou un élément surprenant pour dynamiser le récit, Corbin se contraint à mettre en scène la solitude d'un chef de service profondément mélancolique et dynamise le récit avec des questions éthiques ou de stratégie politique. Alors sans doute n'avait-il pas le choix, hein. L'écriture minutieuse de John le Carré, qui a été agent secret et diplomate, impose un sérieux qui fait passer évidemment James Bond pour un bout en train. Pour envelopper cet aspect documenté de la réelle politique, Most Wanted Man, un homme très recherché en français, eh bien baigne dans une atmosphère légèrement tendue, toujours sur un fil. On parle de lutte contre le terrorisme, de discussions bilatérales, de droits humains. Corbin parvient à captiver avec un récit certes classique, mais non sans l'aide de ses acteurs, dont Seymour Hoffman qui est tout simplement parfait. Alors pas de manichéisme, juste une vision éclairée des recettes et de l'arrière-cuisine pour traquer les terroristes, ou pourrait-on dire les potentiels djihadistes, et c'est un peu d'actualité. Et eh bien, j'ose espérer que c'est à peu près dans tous les cinémas.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique, invité et nouvelle du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire ?
Et on finit eh bien, avec Elle l'adore de Jeanne Herry. Alors Muriel, interprétée par Sandrine Kéberlin, est une esthéticienne un peu seule dont le quotidien est égayé par deux passions. Raconter des histoires qui confinent parfois à la mythomanie et vouer un culte sans borne à Vincent Lacroix, chanteur populaire à succès. Sa vie plutôt morne bascule un jour dans une histoire plus invraisemblable que la plus folle de ses affabulations lorsque son idole frappe à sa porte pour lui demander de dissimuler le meurtre de sa femme. La meilleure qualité de Elle l'adore est sans doute l'écriture de ses personnages, dépourvus de tout manichéisme et doublés d'une excellente interprétation, puisque les très bons Sandrine Kéberlin et Laurent Lafitte en explorent bien les différentes facettes. Le plus gros handicap de ce film, en revanche, ni raté ni réussi, est bien de ne pas savoir affirmer son registre. Le décor est posé assez subtilement durant la première demi-heure, mais si l'intrigue suit son cours de façon efficace, l'ambiance déçoit. Le film hésite en effet entre comédie, thriller et drame psychologique. Il y avait pourtant, dans cette relation ambiguë entre admiration et fanatisme, de quoi nouer une intrigue complexe, un propos intéressant, mais qui ne demeurera malheureusement que survolé. Les rapports de domination et de fascination ne sont que survolés et loin d'être mauvais, mais le film s'avère oubliable comme une chanson de variété française calibrée pour plaire, mais pas pour durer. Et on va maintenant écouter une interview de Laurent Lafitte, justement, au sujet du film que nous avons rencontré il y a quelques semaines.
Alors, tu ne parles pas précisément du film, tu en parles un tout petit peu, et après tu parles plutôt de lui, et c'est mieux.
Il m'est arrivé un truc un peu dingue ce matin. J'ai épilé une dame, elle avait pris rendez-vous sous le nom de Barbie. C'était une petite dame, châtain, juste avec un petit accent étrange.
Au revoir Madame Barbie, bonnes vacances.
Au revoir Muriel, à bientôt.
À bientôt. Pouf, déclic, l'accent allemand. Je me dis, oh putain, je suis en train d'épiler la fille de Klaus Barbie.
Non.
Alors, dis-moi, comment est-ce que tu as préparé ce rôle de chanteur que l'on ne voit en fait jamais chanter dans le film ?
Oui, et c'est ça qui me plaisait aussi dans le scénario, c'est qu'on ne parle pas de, on parle pas beaucoup de son œuvre, on parle surtout de sa carrière, en fait, de ce qu'il a réussi à construire, de sa notoriété, parce que c'est tout ce qu'il a réussi à mettre en place qui fausse son rapport aux autres, qui fait qu'il va oser demander une chose pareille à sa groupie. Mais on n'avait pas besoin de savoir quel genre de chansons il pouvait composer ou chanter. Et puis Jeanne Herry, la réalisatrice, en plus, trouve, et je suis d'accord avec elle, que ça marche très rarement de voir un acteur qui d'un coup joue un chanteur. Donc ça veut dire qu'on aurait dû composer des chansons exprès pour le film, mais des chansons qui résonnent pour personne, alors que c'est le contraire. On raconte l'histoire de quelqu'un dont tout le monde connaît les chansons depuis 20 ans. Mmh. Voilà, des gens comme Julien Clerc, comme Souchon, comme Woolsey. Donc ça aurait eu un effet contraire, en fait, je pense.
Alors que pourtant, enfin, toi, tu as étudié le chant, la danse, dans une prestigieuse école anglaise, il me semble, donc
oui,
tu aurais très
vrai.
Bien pu le faire, en fait.
Oui, j'aurais pu chanter, je pense, de manière suffisamment crédible pour que ça fonctionne, je pense. Oui, mais c'était pas le but.
Il m'arrivait un truc un peu dingue l'autre jour. Vincent Lacroix m'a demandé de l'aider à se débarrasser du corps de sa compagne et je l'ai fait. Il avait l'air complètement désemparé.
Mais pourquoi tu racontes des trucs comme ça ? Arrête !
Ben voilà, j'ai plus aucune nouvelle de ma compagne, Julie Dorieux, depuis 4 jours. On fait partie d'une génération, pour les acteurs de maintenant qui font et du théâtre et du cinéma, on a grandi avec le cinéma, c'est plus considéré comme un sous-art, comme ça a pu l'être par certains comédiens de théâtre pendant les années 40, 50, 60, jusqu'à 70 même, je pense. Donc, on n'a plus le même rapport au cinéma.
Muriel, s'il te plaît, dis-moi la vérité.
Mais Étienne sait la vérité, il faut me croire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, s'il vous plaît ?
Mais c'est impossible !
Mais pourquoi ?
Parce qu'il y a 15 personnes autour de toi qui peuvent témoigner que tu racontes tout le temps n'importe quoi.
Vous connaissez Muriel Bayen ?
Oui, enfin, j'ai vu 100 fois, mais on peut pas dire que je la connaisse vraiment.
Mademoiselle Bayen, vous êtes désormais placée en garde à vue.
Toi, tu es maintenant à un moment, on peut dire, charnière de ta carrière, dans le sens où on te propose vraiment de plus en plus de premiers rôles. Par rapport à avant, où tu faisais peut-être un peu plus souvent de second rôle. Mm-hmm. C'est quelque chose que tu ressens dans ta conscience ?
Ah bah oui. Oui, ça je vois bien que depuis les petits mouchoirs, mm-hmm. je reçois des scénarios déjà, mm-hmm. et puis avec des rôles, importants. Donc oui, bien sûr, bah oui, c'est une chose qu'on a envie de mettre en place quand on est comédien. Donc quand ça arrive, oui, on sent la différence.
Mais tu te diriges quand même plus vers la comédie ? En règle générale, non. On va dire, quand même.
Non, j'essaie d'alterner, là. J'essaie d'alterner.
Parce qu'il y a eu Ensemble, c'est trop, De l'autre côté du périph', 16 ans ou presque.
Oui, bien sûr. J'adore la comédie. Je viens d'en tourner une avec Marina Foïs, mais j'ai fait aussi Tristesse Club, j'ai fait Les Beaux Jours, Elle l'adore, qui pour moi n'est pas une comédie. Donc, j'essaie d'alterner.
Donc pas de préférence particulière.
Non, j'ai un ADN. Mon ADN de comédien, c'est plutôt la comédie.
Parce que tu as aussi fait du one-man show.
J'ai fait un one-man show, oui. C'est plutôt la comédie. Mais je pense que cet ADN-là peut être intéressant à utiliser dans du drame et dans des choses peut-être plus... moins légère, quoi.
Je me dis que j'ai vraiment pas de chance parce que il y en a dans toute la France des fans de Vincent Lacroix.
Oh, stop ! Stop !
C'est pas une amie, hein. C'est même pas une copine. C'est rien. C'est juste une fan.
Voilà. Est-ce que l'homme est aussi intéressant que l'acteur?
Il est moins drôle en revanche, il est aussi intéressant, mais il est un petit peu moins drôle en vrai. Mais bon, après, il était peut-être aussi un petit peu fatigué, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Voilà.
En tout cas, il s'est prêté à l'exercice. Merci pour cette interview.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Eh bien, la semaine prochaine, on devrait retrouver des chroniques ou des rubriques qu'on avait précédemment. Et puis, on aura aussi une interview, celle de Roche Dizem, pour la sortie de Bodybuilder.
Oui, et on vous parlera très certainement de Saint-Laurent, le nouveau film de Bertrand Bonello. À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.